Ça, évidemment, c'est absurde, inacceptable, parce que ça aboutit à jouer la retraite au casino.
Il faut payer.
Le crédit, c'est comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne.
Payer, pago, payer, pago, payer, pago, payer.
François Ruffin, là, dans votre bouquin, vous évoquez tous les moyens utilisés dans le passé pour débarrasser des dettes par les États. Il y a quand même des recettes et des procédés qui aujourd'hui seraient difficilement acceptables. Hein. On utilise assez rarement les guillotines et tout ce genre de matériel maintenant est un peu désuet, peut-être pour un certain temps, ça reviendra peut-être. Mais parmi les méthodes récemment employées pour réduire les dettes, il y a l'inflation qui permet de spolier les épargnants, c'est ce que les épargnants diront, et ça a permis récemment dans l'histoire de réduire le volume de la dette. Dès qu'on dit le mot inflation, c'est un gros mot hein, dans le débat public.
Oui, d'un point de vue historique, nous, on est reparti de Gaulle à la Libération.
Ça sert toujours de bouclier, ça, de Gaulle. Hein.
On les multiplie, les hommes progressistes, de gauche, radicaux, utopistes, hein, Raymond Poincaré, Colbert, ainsi de suite. Non, mais en 1944, à la Libération, il y a un grand débat dans le pays. Est-ce qu'il faut mener une politique d'austérité ou pas ? Déjà. C'est-à-dire que Pierre Mendès France, à l'époque, ministre de l'économie et des finances, dit « il faut qu'il n'y ait plus d'inflation, il faut que les salaires stagnent, en tout cas qu'on aille vers moins de hausse de salaire, moins de hausse de prix, ainsi de suite ». Et De Gaulle ne le suit pas. Ne suit pas la politique d'austérité que Pierre Mendès France appelle une politique de facilité, qui est la politique d'inflation. Et le choix opéré par De Gaulle, soutenu par les communistes et ainsi de suite, va être un choix qui va être payant. Qui va être payant en termes de développement du pays, de reconstruction du pays, mais ça va être un choix qui est efficace en termes d'effacement de la dette, puisque en 1944, le poids de la dette comparé au PIB est de 269%, et 7 ans plus tard, en 1952, il est de 33%. Donc on voyait comment, par rapport au PIB, ça a été divisé par plus de 10 en 7 ans.
C'est une situation toujours particulière quand on se réfère à cette époque-là. Et on est dans une situation historique si particulière que je ne sais pas si...
Mais ça va continuer. Dans les années 70, en maintenant la même politique, De Gaulle revient, il tente de changer de politique et de faire une politique plus de rigueur. Il n'y parvient pas. Dans les années 70, avec toujours ce choix de l'inflation, on va en arriver à effacer nos dettes. Et là, il va y avoir le grand basculement, ce qu'on va appeler le coup de 79, qui va être le choix d'une politique monétariste. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, c'est parce qu'il y a des baisses d'impôts et ainsi de suite, c'est vrai, mais il y a un choix monétaire qui est effectué. Le choix monétaire, c'est de dire, il faut lutter contre l'inflation. Il faut lutter contre l'inflation avec 2% d'inflation maximum aujourd'hui au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et ça, ça va s'ancrer dans les esprits, ça va s'ancrer dans les banques centrales pendant les années 80 et les années 90. Et donc, il est évident que là, il y a un grand basculement en renonçant à ce choix de l'inflation, quoi.
Attaque. Les deux auteurs parmi les quatre, hein, vous êtes quatre à avoir écrit ce bouquin, je rappelle le titre, Leur dette, notre démocratie. Ça vous semble une bonne méthode, la méthode Ruffin d'inflation, de coller de l'inflation, et est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nos élus actuels applaudiraient le discours de Ruffin?
Des économistes pas forcément très à gauche, par exemple l'économiste en chef du FMI recommande à la Banque Centrale Européenne d'accepter des cibles d'inflation de 3 ou 4% plutôt que de 2%. Hein. Donc c'est une idée effectivement qui est présente chez beaucoup d'économistes. Bien sûr, l'inflation fait partie
des armes possibles.
Des armes possibles, et je dirais même nécessaires, hein, parce que face au problème de la dette, il va y avoir plusieurs manières de traiter le problème. Mais à court et moyen terme, je dirais qu'on n'échappera pas à des restructurations massives. Comme on a déjà vu, d'ailleurs, le premier exemple, c'était le cas de la Grèce. Hein. On a quand même oublié que pendant des années, la Banque Centrale Européenne, et puis surtout nos amis de Bercy et les banquiers français, hurlaient en disant que restructurer la dette grecque, c'était donner la prime à l'irresponsabilité des Grecs, etc. Et finalement, on a quand même vu que l'année dernière, ils ont effacé 50% de la dette due à des créanciers privés de la Grèce. Ce qui était simplement, d'ailleurs, une manière de maintenir le couteau sous la gorge du patient sans l'égorger complètement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il continue, que les flux d'intérêts continuent à alimenter le système financier sans que la Grèce fasse banqueroute. Parce que, évidemment, si on n'avait pas restructuré la dette de la Grèce, elle aurait fait banqueroute, puisqu'elle ne pouvait plus payer. Donc la seule manière d'éviter la banqueroute, d'éviter ce qu'on appelle le défaut aujourd'hui, ça a été de restructurer la dette. Mais c'était une restructuration qui a été menée par les créanciers. C'est très différent. Et là, les exemples historiques de François Ruffin sont intéressants parce que c'est complètement différent une restructuration de la dette qui est menée par les créanciers ou qui est menée par les débiteurs. Quand elle est menée par les créanciers, ça sert effectivement à maintenir